Studio Tamani, voici les informations en français.
18h à Bamako, même heure à Farako, dans la région de Ségou. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La 8e édition des Golden Days a été lancée ce matin. Durant 2 jours, les acteurs du secteur minier et des énergétiques du Mali et d'ailleurs vont échanger sur les opportunités et défis auxquels ils font face. Après 4 ans de captivité, Ali Cissé, le sous-préfet de la ville de Farako, vient d'être libéré. Une libération qui suscite l'espoir des administrateurs civils pour leurs autres collègues en captivité. Le dossier de la semaine s'intéresse à l'élevage et la vente des animaux domestiques. Si l'activité est rentable, des experts alertent sur son impact sur la santé et l'environnement. Le développement de ces titres avec Adama Amadou Haïdara, Mamadi Keïta est à la mise en onde. Mardi 30 mai 2023, les acteurs du secteur minier et des énergétiques du Mali et d'ailleurs se concertent à la 8e édition des Golden Days, un événement qui permet aux participants d'échanger sur les opportunités et défis auxquels le secteur minier est confronté. Les participants feront également des recommandations permettant au Mali d'émerger et faire profiter les populations des ressources minières du pays. Des conférences, des expositions sont prévues. Mariam Koulibaly nous fait le point.
La bonne gouvernance de l'État et des multinationales pour favoriser l'investissement dans le secteur minier et énergétique, c'est le thème de cette édition. C'est pourquoi le chef de cabinet du ministère des Mines a estimé qu'il est important que l'exploitation minière impacte davantage l'économie nationale et contribue au développement des communautés. Djadji Amadou Keïta.
Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières, porte de plus en plus leurs fruits suite à la sensibilisation et surtout aux nombreuses interpellations des exploitants illégaux. En termes de production d'or, il a été enregistré 66 tonnes d'or pour une prévision de 64, en hausse également par rapport à 2021, fixée à 63 tonnes d'or. Il a attendu une production de 67 tonnes d'or cette année.
Mohamed Koulibaly, organisateur du forum, soutient qu'il faudrait rassurer les investisseurs afin qu'ils privilégient le secteur énergétique.
On a ce gros soleil-là. Le but, c'est de réussir à l'utiliser pour avoir du courant. C'est cet investissement-là qui sont colossaux et pour lequel l'État est en train de travailler avec l'AER, l'Agence des énergies renouvelables, la MADERE. Donc quand ils viennent aussi sur notre événement et qu'ils prennent des stands, c'est aussi l'occasion pour eux de dire ce qu'ils font.
Le forum sur les mines et les énergies prendra fin demain 31 mai sur un panel dédié à l'orpaillage. Les Golden Days se tiennent au moment où le gouvernement se penche sur une relecture du code minier au Mali.
La coalition nationale Publier ce que vous payez réclame la publication systématique des rapports finaux et leur libre accès à tous les citoyens de l'audit des mines en exploitation au Mali. Elle l'a fait savoir la semaine dernière lors d'une conférence de presse. La coalition recommande aussi au gouvernement de commander d'un autre audit sur le contrat de la mine de lithium de Gualamina qui entre en production en 2024. Abdoulaye Wahab Diakité, président de la coalition Publier ce que vous payez, au micro de Diara Faskoué.
Nous avons organisé ce point de presse pour faire des recommandations à l'endroit du gouvernement suite à la remise des rapports provisoires de la mission d'audit des mines d'or en activité au Mali. 2 mois après, les rapports finaux ne sont pas publiés. Donc nous exigeons la publication des rapports finaux et en même temps, nous recommandons l'audit de la mine de Gualamina sur le lithium et la publication de l'étude d'impact environnemental. Quand déjà on parle de rapports provisoires, ça veut dire qu'il y a des changements qui sont opérés et quelqu'un ne peut pas se prononcer sur un rapport provisoire. Nous sommes en train de faire tout ça parce que pendant 30 ans, l'or n'a pas brillé. Et sous peu, dans moins d'un an, nous allons rentrer dans l'exploitation du lithium. Un minerai stratégique, donc vraiment, il faudrait que les Maliens puissent tirer toutes les leçons de l'exploitation de 30 années de l'or.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Comme annoncé dans les titres, le sous-préfet de la ville de Farako dans la région de Ségou, Ali Cissé, enlevé le 13 décembre 2019, a été libéré ce matin par ses ravisseurs. L'information a été confirmée par Bourayma Diarra, secrétaire général par intérim du syndicat autonome des administrateurs civils. Pour l'instant, difficile d'en dire plus sur les circonstances de cette libération. Les administrateurs civils espèrent aussi la libération de Drissa Sanogo, ex-préfet préfet du Gourmaraourous enlevé le 2 mai 2020. Bourema, secrétaire général par intérim du syndicat autonome des administrateurs civils, est joint ici par Imran Kilumeika.
En tout cas, nous sommes tous joyeux d'avoir appris la bonne nouvelle après 4 ans de captivité de notre collègue, le sous-préfet de Farakou, M. Ali Sissé. À ce niveau, on ne peut pas dire exactement les circonstances de sa libération, puisque les autorités maliennes, le gouvernement, à travers les forces de défense et de sécurité qui ont œuvré pour sa libération, nous n'avons pas discuté de cela. Donc, comme vous l'avez dit, depuis plus de 3 ans, nous avons une discussion avec le gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation afin de mettre tout en œuvre pour sa libération sans échec.
Le forum de l'Internet de Stockholm s'est ouvert ce mardi en Suède. Le thème retenu pour cette édition de 2023 porte sur le rôle de l'Internet et d'éthique pendant les crises, les conflits et les catastrophes. On en sait plus avec Moumine Sendebou, notre envoyé spécial en Suède.
Plusieurs pays à travers le monde, dont le Mali, prennent part à ce rendez-vous de l'Internet. Les participants sont entre autres les acteurs de la société civile, les décideurs politiques et les entrepreneurs, sans oublier les universitaires et les hommes des médias. En plus du thème principal, d'autres sous-thèmes sont inscrits à l'ordre de cette rencontre de 10 jours. Il s'agit notamment de la gouvernance des contenus et responsabilité des plateformes en temps de crise, la désinformation et la surveillance quotidienne, les sons provenant des réponses locaux aux crises démocratiques, maladies et conflits, ainsi que l'exploitation des données humanitaires, l'information et l'intelligence artificielle. La contribution des participants joue un rôle fondamental dans le résultat du forum. C'est du moins ce qu'attendent les organisateurs de l'événement. Moumine Sendebou à Stockholm pour Studio Tamani.
Le comité local de pilotage de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides s'est réuni hier lundi à Nioro du Sahel. Objectif, développer des stratégies dans la lutte contre le paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée. Selon les responsables socio-sanitaires, le district sanitaire de Nioro compte 29 SESCOM avec 352 agents de dénombrement pour assurer la couverture totale du cercle. Le dénombrement va du mardi 30 mai au jeudi 1er juin 2023. Ils sont nombreux les jeunes qui évoluent dans l'élevage et la vente des animaux domestiques. Malgré les difficultés auxquelles ils font face, ils estiment parvenir à tirer leur épingle du jeu. Toutefois, des environnementalistes affirment que cette activité peut avoir un impact négatif sur la santé humaine et sur l'environnement. Le dossier de la semaine s'intéresse au sujet. Il est réalisé et présenté par Halima Yatara.
À Bamako et à l'intérieur du pays, l'élevage des animaux domestiques est une activité courante. Il est pratiqué par bon nombre de jeunes. Cependant, ils déplorent les difficultés qu'ils rencontrent.
Le prix de certains valent 1 million. Et ceux qui ont un mois de cela varient entre 200 000, 300 000 ou 1 million. Ça dépend de la qualité.
Les lapins, les canards, les perdrix, les gazelles, certains proviennent du Dakar et j'amène certains au Niger. J'importe et j'exporte les animaux au Mali et ailleurs. C'est les riches qui les aiment bien. D'autres les mangent et même en donnent à leurs proches. Les difficultés que nous rencontrons, c'est au niveau de l'obtention des paquets.
Les clients revendeurs eux aussi abondent dans le même sens. Ils estiment que l'activité rapporte beaucoup, mais il faut d'abord investir. Noum Sissé, client revendeur.
À condition qu'il n'y a pas de pertes en chemin, où les animaux ne viennent pas avec des maladies, sinon ça rapporte. Par exemple, quand les gazelles d'Orca, on achète depuis le Nigeria, on vend le couple à 1 million. Souvent 1 250 000. Ça dépend en fait du moment. Il y a des moments où il y en a beaucoup en circulation. Il y a des moments où c'est très rare dans la circulation. Le prix va dépendre de ça. Mais une chose est sûre, quand tu investis, tu vas gagner.
Selon les environnementalistes, l'élevage des animaux dans les familles peut avoir des conséquences directes sur la santé de l'homme. Dr Sidi Lamine Bakayoko, anthropologue et spécialiste des questions environnementales et de changement climatique. Et
souvent, on peut être tenté ou même on consomme des volailles qui sont contaminées, qui ont certaines maladies qui que l'homme ne contracte pas directement, mais avec la consommation, il peut avoir des conséquences directes d'intoxication alimentaire ou d'autres maladies.
Rappelons que des spécialistes des questions environnementales affirment que cette activité peut également contribuer à la dégradation de l'environnement ou polluer l'air.
Place à l'introduction du Grand Dialogue avec Imirana Kilou Meiga. Bonsoir Imirana, quel est le thème du Grand Dialogue de ce soir?
Bonsoir Adama Amadou Haïdara, qu'en est-il du retour des services financiers à Gao? C'est le thème qui sera évoqué au cours de ce débat délocalisé à Gao. Nous serons avec Alhader Amadou Bella, conseiller des affaires économiques et financières au gouvernorat de Gao, Moussa Yaya Touré, secrétaire général de la coordination des anciens mouvements et organisations de la résistance civile de Gao, et Mahaman Alou Diallo, secrétaire aux revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali, section Gao.
Merci Mirana, bon débat et bonne écoute à nos auditeurs de la cité des Askiar. 18h passées de 11 minutes. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toutes les productions de Studio Tamani sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. La journée de l'Union africaine a été célébrée le 25 mai dernier. Créée depuis 1963 à Addis Abeba en Éthiopie, de nombreux observateurs regrettent que cette organisation peine à faire du rêve des pères fondateurs une réalité. Cependant, des leaders féminines reconnaissent les efforts des dirigeants de l'Union africaine dans l'autonomisation des femmes et l'acquisition de leurs droits. Est-ce qu'elles se sont impliquées dans le processus? Espèrent-elles que l'objectif d'union serait atteint un jour? Des réponses dans ce magazine Toutes les femmes du Mali. Il est réalisé et présenté par Mamadou Samasiku avec l'appui de nos correspondants locaux.
Du nord au sud, en passant par le centre, les avis des femmes divergent sur l'Union africaine. Certaines se félicitent du travail abattu par l'institution continentale, d'autres s'attardent sur son échec face aux objectifs assignés.
Les femmes à Bankas, nous reconnaissons vraiment les efforts de l'Union africaine à travers l'acquisition des droits des femmes et l'autonomisation des femmes.
Depuis la création de l'Union africaine jusqu'à nos jours, les objectifs vraiment n'ont pas été atteints. L'Union africaine n'arrive pas à résoudre les problèmes des Africains. C'est les Occidentaux qui décident.
Les femmes ont vraiment été mises à contribution. Moi-même qui suis là, j'ai plusieurs fois participé à des activités de l'Union africaine. C'est vraiment quelque chose que je salue.
La représentante des femmes en milieu rural regrette surtout la mésentente entre les dirigeants de l'organisation. Elle estime que c'est pourtant ces chefs d'État qui devraient servir de référence pour les femmes du continent. Madame Nyakate Gundo Kamisoko, présidente de la Fédération nationale des femmes rurales.
Au lieu de faire sortir nos ressources vers l'extérieur, c'est mieux que ça reste chez nous pour qu'on puisse en profiter. Je crois que c'est le but de la création de cette organisation. Mais on a fini par comprendre qu'eux-mêmes ne s'entendent pas, alors que l'objectif est de travailler main dans la main. Puisque c'est ainsi, nous les femmes des zones rurales n'avons pas de mots à dire.
La coordination des associations et ONG féminines partage la même idée. La CAFO affirme que l'Afrique est condamnée à réussir cette union. Les décideurs de cette organisation féminine indiquent que l'espoir est permis. Madame Diaye Harriet Dambélé, membre de la coordination des associations et ONG féminines du Mali.
Les dirigeants qui étaient là à l'époque ont vraiment sacrifié l'Afrique parce qu'ils étaient divisés. Quand ils ont été divisés, le problème est survenu, donc ça a continué. Les partenaires sont là pour nous soutenir, nous sollicitent pour faire des réflexions par rapport à l'unité africaine. Il y a même des organisations qui sont créées dans la sous-région et les femmes maliennes participent beaucoup dans les ONG surtout. Si on n'arrive pas à avoir une Afrique unie, les frontières surtout nous seront vraiment pénalisées.
Rita Diarra est de la société civile de Mopti. Elle évoque l'impatience des peuples d'Afrique face au défi du regroupement continental.
L'Union africaine a encore beaucoup de chantiers qu'elle doit mener. Mais son bilan en général n'est pas négatif. Je pense qu'il y a surtout beaucoup d'impatience de la part des Africains. Et l'espoir n'est pas perdu. Le chemin est vraiment long, mais nous allons arriver.
Cependant, l'Organisation panafricaine des femmes reconnaît le rôle joué par les pionnières d'alors. Madame Diallo Kamansakliba, vice-présidente de l'OPF région Afrique de l'Ouest, pense que la création de cette institution était une nécessité.
C'est vrai qu'il y a des problèmes. Nous sommes dans un environnement mondial assez complexe, assez précaire. Mais chacun du côté de l'Afrique, nous devons nous donner la main. Quand elle a pris la forme de l'Union africaine, elle a développé en tout cas sa politique socio-économique des États d'Afrique. Le travail se fait de la base au sommet. Et je pense que nous, Africains, il faut vraiment soutenir cette institution pour qu'elle puisse aller de l'avant et répondre à nos attentes, qui ne sont autres que le développement, la liberté, la paix.
C'est la fin de ce magazine dédié aux femmes. Merci à tous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de magazine Toutes les femmes du Mali.